Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable ! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh !
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct, comme chaque matin avec vous, toutes vos questions et notre invité du jour qui nous rappelle chaque jour que non, Michel Drucker n'a pas le monopole du canapé à la télévision. Cette animatrice ouvre les portes de son plateau à de nombreux anonymes qui se confient à cœur ouvert sur une épreuve de la vie qu'ils ont traversée. Son empathie, sa bienveillance, comparable à celle d'une maman ou d'une meilleure amie, est essentielle pour les téléspectateurs que nous sommes, car grâce à elle et son émission qui fait honneur au service public, on se sent un peu moins seul et on peut enfin mettre des mots sur nos mots. Bonjour Faustine Bollard.
Ça me touche beaucoup, bonjour Emile.
Écoutez,
bonjour.
Ici on est sincère, on est flatteur mais sincère. Ça commence aujourd'hui donc, c'est l'émission dont je parlais, de témoignages que vous présentez chaque après-midi sur France 2. Nous en parlerons un tout petit peu plus tard dans cette interview, car d'abord j'aimerais que l'on aborde ce prime time voyage au centre de la mémoire qui est programmé ce soir en première partie de soirée sur France 2. Vous allez présenter cette émission en compagnie de Michel Simès, donc la première question que je voulais vous poser, qu'est-ce qui vous a pris de piquer la place à Adriana Carambeu ?
C'est drôle parce que j'ai reçu un message ce matin justement sur Instagram de gens qui me disent on est très déçus parce que vous avez voulu piquer la place d'Adriana. Alors je rassure absolument tout le monde, le duo Michel et Adriana continue non seulement dans l'aventure...
C'est dans les pouvoirs extraordinaires du corps humain, exactement.
Je crois qu'ils vont faire également les pouvoirs extraordinaires de l'esprit. Donc ce duo n'est absolument pas fini. Elle me l'a prêté juste pour une soirée, mais c'est son mari officiel de la télé, donc je ne me permettrai pas.
Alors, c'est vrai que cette émission est programmée à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Comment vous vous êtes répartis les rôles avec Michel Simès ? Parce que lui, c'est vraiment le côté scientifique. Vous, j'imagine que vous n'allez pas faire des tables de multiplication dans cette émission.
Pas du tout. Et c'est pour ça, justement, que c'était très complémentaire. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment sur l'aspect témoignage. En fait, c'est un gros doc qui dure 90 minutes avec après un plateau. Moi, je suis plutôt sur la partie Alzheimer. Parce qu'en fait, ce doc est divisé en trois choses. C'est-à-dire, déjà, on va comprendre comment fonctionne la mémoire dans le cerveau, les hippocampes, tout ça. Moi, j'y connaissais rien. Après, comment on travaille notre mémoire. Et à la fin, quand la mémoire est défaillante. Et moi, j'ai eu l'occasion plutôt de rencontrer des aidants, des malades, notamment de la maladie d'Alzheimer. Agathe Mariel, qui va nous parler pour la première fois de la maladie de son défunt mari, Jean-Pierre Mariel. Donc moi, j'arrive plutôt sur la partie émotion, on va dire, de ceux qui souffrent de cette maladie-là. Donc en fait, nos rôles sont extrêmement distincts et extrêmement complémentaires.
Il y a des témoignages effectivement extrêmement poignants que vous avez recueillis. On va en parler dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page YouTube de TV Magazine.
Et donc d'abord, il y a les audiences.
Et il y a les audiences, mais vous avez tout compris, c'est ce qu'on va lancer tout de suite. Mais d'abord, vous pouvez poser toutes vos questions à Faustine Bollard, elle est là, profitez-en. Quel regard portez-vous sur sa carrière ? Est-ce que vous regardez tous les jours, ça commence aujourd'hui ? Est-ce que vous aimeriez revoir la boîte à secrets ? Je sais qu'il y a quelques numéros qui sont en préparation, donc n'hésitez pas, vous pouvez lui poser toutes vos questions. On y revient juste après les news médias de Nathalie Chuc. Salut Nathalie !
Bonjour Damien, bonjour Faustine.
Alors Nathalie, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau, ça faisait un petit moment. Alors comme l'a annoncé Faustine, on la suit, c'est les audiences. Quelle chaîne est arrivée en tête hier ?
Exactement. Donc L'Amour est dans le Pré s'est hissé à la première place du podium avec 4 100 000 fidèles. Au coude à coude sur TF1, une affaire française s'est glissée à deuxième place avec 17,9%. Une grosse déception donc pour la chaîne privée qui misait beaucoup sur la fiction adaptée de l'affaire Grégory. France 3 a lancé elle aussi une mini-série, soit L'Absente avec Clotilde Courau, qui a réuni 3 400 000 curieux. Et pour finir, j'ai envie de dire yippie-kaye. Je suis sûre que Faustine n'a pas la réplique.
Je l'ai pas, c'est quoi ça ?
La réplique culte de Bruce Willis, qui a captivé plus d'un million de téléspectateurs sur W9 avec Une journée en enfer, alias Die Hard 3.
C'est sa réplique. J'étais pas du tout là. On pouvait y passer. Moi, j'étais dans un indien dans la ville, si tu veux.
Donc, pourquoi pas ?
Je sais pas pourquoi.
C'est pas le même registre. Donc voilà, W9 s'est placé grâce à Bruce Willis, qui sauve donc la planète entière au rang de leader TNT.
Vous vous êtes posé sur vos canapés, puis là, on vous propose des références avec des explosions partout.
Avec Bruce Willis,
c'était dur, Nathalie.
Vie,
c'était trop dur. Alors, c'est vrai que bon, il y a une petite déception quand même, c'est TF1 hein, qui a effectivement pas atteint l'audience escomptée. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas aussi une surdose, entre guillemets, de faits divers à la télévision? On sait que la chaîne, elle a adapté Jacqueline Sauvage, il y a également l'affaire Fourniret.
D'ailleurs, Jacqueline Sauvage.
Ça avait vraiment marché.
Ouais, alors peut-être, j'en sais rien. Alors, nous, on a proposé une émission spéciale sur l'affaire Grégory.
Il y a une semaine.
Il y a une semaine, voilà, qui a vraiment beaucoup marché. Ouais. Donc, est-ce que c'est juste en rapport avec cette fiction-là? Est-ce que c'est le genre de la fiction? Est-ce qu'on est arrivé au bout de cette histoire-là? Là, j'avoue que je n'ai pas d'explication. Nous, en tout cas, chez nous, parce que je peux parler pour ma paroisse, les faits divers rencontrent encore un grand succès.
C'est étonnant d'ailleurs que vous fassiez ça, vous, maintenant, des faits divers, parce que vous étiez plutôt sur le témoignage d'anonyme. Et là, vous êtes vraiment parfois sur le fait divers.
On n'est pas sur le fait divers, c'est-à-dire qu'on ne va pas décortiquer l'enquête. En revanche, on est sur l'humain autour du fait divers, puisqu'évidemment, au cœur de l'affaire Grégory, il y a des parents, il y a des trahisons, donc on est vraiment au cœur même des secrets de famille avec l'histoire du corbeau, tout ça. Donc nous, c'est juste qu'on prend toujours le prisme de l'humain, très peu le prisme finalement du crime même, de l'enquête, des rebondissements. C'est juste une question de regard en fait.
Et vous avez appris des choses sur cette émission spéciale sur l'affaire du petit Grégory, parce qu'il y a eu une série Netflix, là il y a cette fiction sur TF1, on a l'impression qu'on connaît un peu tout autour de cette histoire qui n'est pas résolue 37 ans après.
Et bien justement, non, j'ai surtout appris l'aspect humain de tout. J'ai rencontré celui qui, malheureusement j'ai un doute sur son nom, mais qui a pris en charge l'enquête et qui raconte à quel point lui, après tout ce qu'il avait travaillé, finalement ils avaient trouvé très très vite qui était responsable, et après on a bafoué son travail, donc humainement à quel point il a mis des années à se remettre de ça. Donc voilà, on a eu l'avocate également des Villemain qui nous a expliqué un petit peu la vie qui menait aujourd'hui. Donc moi c'est surtout ça, c'est vraiment encore une fois l'affect l'humain qui m'intéresse.
Allez, on poursuit ces news médias avec la direction d'M6 qui a décidé de jeter une sorte de bouée de secours à Karine Le Marchand.
Pourquoi?
Oui, c'est vrai, Damien, Faustine, hier c'était la présentation de la nouvelle saison de La France, un incroyable talent à M6. Guillaume Charles, le directeur des programmes de la chaîne, en a profité pour mettre les points sur les i concernant l'animatrice de l'émission, Karine Le Marchand, qui était présente dans la salle. Donc face aux journalistes, il a démenti les allégations publiées dans le magazine public.
C'est souhait, Damien.
Merci. C'est souhait. Donc il a démenti les allégations publiées dans le magazine public selon lesquelles elle se comporterait en diva sur les tournages. Il a conclu en disant « Oui, elle a son caractère, mais aussi, elle fait preuve d'une grande sincérité. »
Est-ce que vous avez déjà été victime de rumeurs aussi, Faustine? Est-ce que, quand on est exposé comme ça, c'est vraiment la rançon de la gloire, entre guillemets? On est obligé d'essuyer ce genre de choses.
Évidemment, et puis dès qu'on a un petit peu de succès, tout de suite, si vous avez un jour un moment de mauvaise humeur, on va dire « Elle a le melon » et tout comme ça. Mais Karine, on voit son caractère, en fait. Donc, elle est extrêmement authentique, elle est cash. C'est aussi ce qui fait son succès, c'est ce qui fait que ça marche. Et puis après, pardon, mais l'histoire de la diva, ça fait quoi? Ça fait 10 ans que ça ressort, ça n'a aucun sens, ça n'est pas fondé, et surtout, c'est une espèce de marronnier, vous savez.
Il y a peut-être aussi un peu de sexisme là-dedans, parce que dès lors qu'une femme va s'affirmer, ce sera une diva.
Qu'elle ose, parce qu'elle fait des blagues parfois un peu grivoises, parce qu'elle est extrêmement libre, forcément, elle se retrouve un peu critiquée, mais tout le monde sait que, mais quand on voit le succès de toutes les émissions qu'elle présente, on a assez peu d'inquiétude sur l'authenticité.
Allez, on va finir ces news médias avec Pierre Ménès. Apparemment, vous avez des nouvelles, là, c'est tout chaud.
Oui, on a des nouvelles de Pierre Ménès, l'ex-chroniqueur vedette du Canal Football Club, rebondit dans le groupe Reworld Media. Pierre Ménès va lancer en association avec ce groupe de presse sa propre plateforme digitale, le Pierrot Football Club. Mis sur la touche depuis la diffusion en mars dernier du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », Pierre Ménès va pouvoir continuer à donner son avis sur le foot.
Merci beaucoup Nathalie pour ces infos médias. Et nous, on poursuit tout de suite avec l'interview du Buzz TV et Faustine Bollard qui vient nous parler de son prime time. Voyage au centre de la mémoire. Alors, ce n'est pas le titre du dernier roman de Jules Verne, hein, si vous n'avez pas suivi. C'est le nom du prime time que vous allez présenter donc sur France 2 ce soir. Donc, quand j'ai su qu'on allait vous recevoir, j'avoue que j'avais un peu peur de regarder l'émission, car c'est vrai que la maladie d'Alzheimer, elle nous rappelle parfois des souvenirs, des moments parfois un peu douloureux de notre vie, parce qu'on a tous quelqu'un dans notre entourage qui a été confronté. Oui, aussi, effectivement, on a tous été confrontés plus ou moins à cette maladie. 900 000 cas en France, je crois. Donc, c'est assez conséquent. Pourquoi irais-je, entre guillemets, me faire violence en allant voir cette émission qui, sur le papier, pourrait paraître douloureuse.
Justement parce que ça n'est pas une émission sur la maladie d'Alzheimer. C'est une émission qui va décortiquer. Ouais. C'est vraiment l'idée, c'était de faire un programme familial. Vous pouvez mettre vos enfants devant. La première séquence, vous allez voir, extrêmement ludique, extrêmement amusante. On va apprendre à travailler notre mémoire. Il y a des personnalités, Tom Villa, François Berléand, Miss France, voilà, Fabien Olicard, qui vont nous permettre, en effet, encore une fois, de nous amuser. Mais c'est vrai qu'à la fin de cette émission, ou dans un deuxième temps, on va s'intéresser à cette maladie, mais de façon aussi assez douce, assez honnête. Moi, je pense que c'est une émission qui n'est absolument pas anxiogène, qui est une émission un peu de décryptage. On retrouvera le ton de Michel aussi, qui est souvent très souriant. Et moi, encore une fois, j'espère que cette émission, que la partie qui est plus du témoignage, va pas déprimer. Au contraire, elle fait réfléchir. Et je pense que c'est aussi un hommage aux aidants qui vont nous regarder. Et je pense que c'est aussi extrêmement nécessaire d'en parler.
C'est vrai que paradoxalement, pour l'avoir vu du coup, cette émission, elle est assez lumineuse. Vous allez notamment à la rencontre de Johanna et de sa maman Corinne, qui elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer.
Vous avez vu comment on sourit ?
Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Ce qu'on constate, c'est qu'elle est heureuse. Elle sourit tout le temps quasiment. Ça vous a surpris, parce que c'est vrai que quand on parle de maladie d'Alzheimer, on a l'impression d'avoir des patients face à nous qui sont assez taiseux, qui sont un peu renfermés sur eux-mêmes, alors qu'elle, pas du tout. Elle est heureuse, cette dame.
C'est ça la particularité en fait de la maladie d'Alzheimer, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de souffrance dans l'entourage, dans les aidants, que dans les malades en eux-mêmes, qui, on va dire, sont dans un monde aujourd'hui un petit peu à part et qui ne se rendent pas forcément compte de tout ce qui se passe autour ou de ce que ça implique pour leurs proches. Et en effet, Corinne, elle a 60 ans, elle a une maladie qui est assez agressive et qui va avancer vite, mais néanmoins, toute la journée, on a rigolé, elle a de l'humour, elle se taquine elle-même, elle a de l'autodérision, et pourtant, on voit qu'à un moment, elle ne sait plus, un quart d'heure après qu'on ait fait des cookies, elle ne se souvient plus, elle nous explique qu'elle a fait une grosse tarte aux fruits. Donc oui, on voit qu'en effet, les lésions sont profondes, mais tout ça est teinté de sourire et d'acceptation. Et je pense que c'est aussi un des messages de cette émission, c'est-à-dire que, de toutes les manières, on peut vivre avec Alzheimer, mais on donne des clés pour vivre le moins mal possible, en tout cas, et surtout pour essayer d'épauler les aidants qui, eux, pour le coup, sont beaucoup plus dans la souffrance que les premiers concernés.
Justement, vous les suivez au marché, vous les suivez également au domicile. Ça ressemble à quoi, le quotidien d'un malade d'Alzheimer ?
C'est sur le fil. Moi, j'ai appris qu'il n'y avait pas que la mémoire, en fait. La malade d'Alzheimer, il est désinhibé. Donc, moi, j'ai passé aussi quelques jours dans un village Alzheimer, où avec des gens qui ne sont pas sur surveillance médicale.
Et c'est un EHPAD, en fait.
Qui est un EHPAD, mais on ressemble. D'ailleurs, on ne parle pas d'EHPAD, on parle de villageois. On ne parle pas de. Ils sont tous dans des maisons qui sont tenues par des maîtresses de maison et certainement pas par des infirmières. Et j'ai trouvé qu'il y avait une espèce. En effet, il y a quelque chose de sans filtre. Ouais. Donc, ça danse. Ça rigole, ça embrasse. Moi, je ne pensais pas, je ne voyais que la souffrance des derniers temps quand on arrive dans le dur de la maladie. Donc, j'ai été très surprise de ça. Et Corinne, en effet, j'ai passé une journée qui, moi, m'a fait un bien fou parce qu'on parle d'amour tout le temps dans cette famille, ça s'embrasse, on rigole même avec les tout-petits de la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a quelque chose de très décomplexé auquel je ne m'attendais pas du tout. Et en fait, c'est un tabou aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer. Et c'est ce qu'on essaie de lutter contre ça dans cette émission parce que dans cette famille, on en parle, on prononce, on dit pas, il n'y a pas de tabou et du coup on est dans l'acceptation et je pense que c'est le secret en fait.
Corinne qui n'a d'ailleurs que 60 ans, comment explique-t-on qu'à un moment donné on déclenche cette maladie ? Est-ce qu'il y a une prédisposition génétique ?
Faut demander ça à Michel Simès. Non, ce que j'ai compris par contre, justement on a enregistré le plateau hier soir et ce que j'ai compris, alors déjà c'est ce que j'ai compris, c'est qu'on ne sait pas grand-chose finalement.
Bien sûr.
On n'a pas de traitement, que la recherche il faut absolument que ça avance, mais j'ai compris qu'en effet avant l'apparition des symptômes, pendant 15 ans on a déjà ces lésions dans la tête. Donc en fait si on était peut-être toutes diagnostiquées, c'est là où il y a un problème éthique. Est-ce qu'on verrait là aujourd'hui que dans 15 ans, moi, je commencerai à avoir les premiers symptômes ? Donc, j'ai appris beaucoup de choses comme ça. Et puis, si vous avez des lésions, ça ne veut pas forcément dire que vous allez développer la maladie. Donc, en fait, j'ai surtout appris qu'on ne sait pas grand-chose, que la science... D'ailleurs, il y a un moment dans le documentaire où il y a un chercheur qui est interviewé et Michel lui dit « Mais est-ce qu'on sait ?» Puis à un moment, il fait « On ne sait rien. » En fait, on ne sait rien. Enfin, on ne sait rien. On avance, mais on sait peu de choses. On ne sait pas traiter, donc il faut juste apprendre à vivre avec le mieux possible.
Allez, on va du côté des internautes sur la page YouTube de TV Magazine.
Oui, Damien. Alors, Faustine, je vois très bien à quoi fait allusion la question de Thibaut qui demande...
Salut Thibaut.
Est-ce qu'un jour, vous allez devenir méchante comme dans l'émission Surprise sur
oui. En tout cas, je me suis beaucoup amusée à l'être.
C'était très drôle.
Ah ouais, on m'a dit...
On rappelle, c'est Tom Villa qui nous a demandé d'être odieuse dans le cadre de votre émission.
Exactement.
Et les invités n'étaient pas au courant et c'était...
Je piégeais Cyril Ferraud avec Iris Mittenard où on était tous les deux, on faisait semblant d'avoir une grosse querelle sur le plateau, mais le ton montait entre toutes les deux. Et on m'a dit, c'est simple, c'est le moment d'exprimer ton double maléfique. Et je me suis totalement lâchée. Je me suis complètement amusée. J'ai été vraiment odieuse. D'ailleurs, même, on a sucré des choses au montage parce que moi, j'étais complètement en lâchage total. Mais c'est un bon souvenir. Mais les gens, ma mère a détesté. Ma mère a détesté, elle m'a dit, je déteste
elle,
voir
elle
comme
elle vous a
ça.
Pas reconnu.
Elle me dit, je pensais que tout le monde allait penser que t'étais comme ça. Elle me dit, imagine les gens qui zappent et qui n'ont pas compris. Je lui dis, mais il y a écrit en énorme en dessous. Elle me dit, non, on va croire que t'es comme ça.
Mais vous êtes une bonne actrice.
J'allais dire aussi, ouais. Ça ne vous a pas donné envie de...
Ça m'amuserait, en fait. Ça m'amuserait de tenter l'expérience. J'en parlais avec Michel, justement, là, qui incarne un vétérinaire et qui revient de tournage. Ça m'amuserait un jour, dans un petit exercice, de m'y risquer. J'avais fait quelques cours de théâtre quand j'étais jeune. Je voulais devenir comédienne au
Ça, il faut lancer la perche.
Mais bah, je le fais là.
Ah oui.
Bah, je le fais.
Il faut que vous recrutiez Faustine Bollard en tant que comédienne, c'est
non,
pas possible.
Non, pas en tant que comédienne, mais un petit rôle dans un truc m'amuserait beaucoup.
Un Capitaine Marlowe, par exemple.
C'est peut-être un peu ambitieux, quoi.
Oh, mais, un
guest qui arrive derrière et qui fait une photo bombe.
Voilà. C'est effectivement très intéressant. On a hâte de voir ça. Alors, c'est vrai qu'un autre moment fort de cette émission, hein, de Voyage au centre de la mémoire, c'est votre rencontre aussi avec Agathe Mariel, donc la veuve de Jean-Pierre Mariel. Hein, cet acteur souffrait de la maladie d'Alzheimer aussi, ce qui doit être d'ailleurs terrible pour un comédien, la mémoire c'est quand même son travail. Comment il l'a vécu cette maladie, Jean-Pierre Mariel ?
Alors déjà, il n'a jamais prononcé le mot d'Alzheimer, ni Agathe, ni lui-même. Il ne voulait absolument pas être testé, il ne voulait pas en entendre parler. Donc en fait, quand il commençait à ne plus se souvenir des textes, et Agathe le raconte merveilleusement bien, il a commencé à dire non mais j'ai plus envie, et c'est elle qui lui dictait les textes à l'oreillette. C'est-à-dire que, en fait, et lui disait juste parce que j'ai la flemme. Et en fait, dans tous les plateaux, ça se savait qu'à un moment, au fond à gauche, il y avait Agathe et qu'elle lui disait, et que lui, il interprétait, mais qu'elle lui disait les textes. Et ça a duré comme ça pendant des années. Mais ils ne se sont jamais vraiment avoué les choses. Et c'est la première fois qu'elle décide d'en parler, justement parce qu'elle dit qu'il n'y a pas de honte, qu'il ne faut pas avoir de tabou, qu'elle a envie aussi de raconter sa vérité. Elle est bouleversante. Ouais. Je suis tombée en amour de cette femme qui m'a...
Elle est vraiment sans filtre, effectivement, elle se livre à cœur ouvert. Hein.
Exactement. Ouais. Et elle raconte vraiment la fin, le placement de ce Jean-Pierre, ce jour où elle a dû le placer en EHPAD et qu'elle s'est retournée, que ça a été un des pires moments de sa vie. Et puis comme il était, on se replonge aussi dans la vie de ce grand homme fantasque et fantaisiste, où elle nous raconte de quelle manière justement ses incohérences, il pouvait les cacher, parce que comme on s'attendait que Jean-Pierre Mariel soit un peu barré, un peu fou, elle disait j'arrivais à en faire passer comme ça, et elle était sans arrêt à côté de lui pour surveiller. Mais il y a un amour dans cette relation. Elle a vraiment dévoué sa vie jusqu'au bout à cet homme. C'est une femme merveilleuse.
On parle avec beaucoup de dignité, effectivement.
Ouais, exactement.
Dans Voyage au centre de la mémoire, il y a quelque chose qui nous saute aux yeux aussi, c'est que vous sortez. Vous n'êtes plus uniquement sur un plateau de télévision, comme on le voit dans Ça commence aujourd'hui, sur France 2. Là, vous sortez. Est-ce que ça ne vous manque pas, justement, au quotidien, d'aller sur le terrain à la rencontre des gens ?
Ça a été une révélation. C'est-à-dire que j'adore l'immersion, j'adore aller passer des après-midi, j'adorerais venir chez vous.
Ah, mais avec plaisir.
J'adore aller chez les gens, c'est mon truc. Et par rapport, justement, à Ça commence aujourd'hui, où je suis dans mon canapé, j'ai trouvé que c'était moi, je me suis éclatée à le faire. Je me suis épanouie, ça m'a fait un bien fou. Et il y a une nouvelle émission qui va arriver bientôt, je vous en reparlerai, qui s'appelle Les temps changent. Et justement, je revendique au maximum maintenant aller me déplacer à la rencontre. Je trouve que du coup, c'est très complémentaire de l'après-midi. J'ai adoré ça.
Et ce serait compliqué de le faire ponctuellement dans Ça commence aujourd'hui, d'aller sur le terrain à la rencontre des gens. Parce que c'est vrai que vous tirez les confidences de certaines personnes qui sont anonymes. Mais j'imagine que dans un cocon plus familial, avec peut-être des objets, des souvenirs, ce serait beaucoup plus facile.
Bah, c'est une autre émission, quoi. C'est vraiment une autre émission. Donc, je ne pense pas que je le ferais dans le cadre de Ça commence aujourd'hui, mais ça peut faire partie des choses sur lesquelles on travaille parce que voilà, on veut. Je crois que France 2 et moi, on a envie d'aller dans cette direction-là pour ce qu'il s'agit de la soirée.
Allez, on retourne du
c'est
côté
drôle,
des internautes.
On a l'impression que c'est de l'eau et qu'il va avoir des poissons.
Mais alors, effectivement, alors sachez qu'il y a un rond au milieu, vous voyez, ça c'est pour une barre de pole dance qui est à la fin de l'interview normalement.
C'est ça, Nathalie, sort. Démonstration.
Exactement, bah, ouais, c'est pour ça.
En l'occurrence.
Non, j'ai pas répété c'est hier soir, je suis désolée. Allez, on va prendre une question internaute.
Oui, c'est Samuel demande comment passe-t-on de journaliste pour la presse écrite à animatrice. C'est vrai que vous avez démarré pour la presse écrite, c'était Télé 7 jours. Comment vous avez fait vos premières armes ? Comment vous avez...
Écoutez, ça fait 20 ans, alors... Oui. non, la vieille. Moi, je voulais absolument faire de la télé, donc j'avoue que j'adore le métier de presse écrite, mais je m'étais dit, je vais rentrer dans un journal télé, comme ça, je vais avoir accès à ce monde, c'est-à-dire, je vais avoir accès aux producteurs, aux animateurs. Donc, dès le départ, j'avais quand même cette envie-là. Et puis après, c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire de chance. J'ai commencé à faire de la radio, puis j'ai commencé à rencontrer des gens, j'ai rencontré Michel Drucker. Il y a des gens comme ça, il y a quand même un peu de magie dans ce métier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent l'exercer, et puis tout d'un coup, c'est la bonne rencontre au bon moment. Donc il y a une histoire de planète alignée. Donc il n'y a pas, malheureusement, une recette miracle pour faire la télé. Après, en effet, les études de journalisme, c'est quand même un. Enfin, je sais pas, vous avez fait.
J'ai fait une école, le SALSA, pour être très précis.
C'est ça. Ça fait partie des portes d'entrée qui peuvent vous aider. La preuve.
Écoutez, regardez, je suis là. Je vais pas voler ma place. Justement, la recette magique, vous l'avez un petit peu trouvée quand même sur France 2 avec Ça commence aujourd'hui.
Ne dites pas ça, ça porte malchance.
On touche du singe, on touche du bois.
Je connaissais pas, on touche du bois.
Du singe et du bois. Ah, expression. Ah, ben oui, bien sûr.
Pas,
il paraît que ça porte bonheur. Je vous laisserai toucher mon
fond
tout à l'heure.
Le singe.
1 million de téléspectateurs chaque jour, quand même.
Plus, 1,3 million hier. Non, mais j'aimerais qu'on soit précis.
On pète les plafonds de verre. Est-ce que vous allez injecter des nouveautés dans cette émission durant la saison? On sait que pour Durant Télé, souvent, on a coutume de dire qu'il faut se renouveler. Est-ce que vous allez justement faire un petit virage?
Pas trop, en fait, parce que je pense qu'au contraire, c'est une émission d'habitude. C'est un horaire où les gens sont contents de retrouver leur cocon, leur écrin. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on peut s'autoriser à faire, et plus les saisons avancent, c'est la 5e saison, des sujets qui n'ont rien à voir avec le Schmilblick, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut faire des pas de côté. Là, j'ai fait une émission spéciale où on donne la parole à des agents secrets, à des anciens espions. J'étais entourée à des membres du GIGN. En fait, on peut se permettre aujourd'hui de faire des choses où on se dit, c'est fou, j'ai donné la parole également à des femmes écrivains qui nous ont raconté leur façon de travailler. On est très loin du premier amour ou des histoires familiales. Et c'est ça ma liberté. C'est que là, aujourd'hui, on se dit ça avec nos producteurs. On se dit, parce qu'on est en 5e saison, France 2 nous fait confiance. Et donc, on peut aller de plus en plus vers des sujets un peu plus audacieux ou des pas de côté, tenter des choses. Et pour l'instant, les gens nous suivent. C'est ça, en fait, qui nous permet de nous renouveler. Puis après, on renouvelle un peu le décor, on renouvelle également un peu les experts. Pour qu'on apporte, on nourrit ouais. cette émission.
Alors, outre cette émission et le prime time dont nous avons parlé, vous allez aussi débarquer prochainement aux commandes de Prodige, la 8e ouais. saison. Vous allez succéder à Marie-Sophie Lacaro, qui est partie pour le journal de 13h de TF1. Les tournages, ils commencent quand?
Ça va être début octobre, je crois. Je suis très fière, très humble, ouais. parce que je trouve que c'est une machine tellement prestigieuse. Cette émission a existé bien avant moi, avec des animatrices qui l'ont merveilleusement incarnée. Donc, j'ai l'impression, avec beaucoup d'humilité, de rentrer dans cette famille.
Vous avez révisé un petit peu Beethoven, Chopin?
Pas tellement. Alors, justement, je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette. Mais j'ai pu échanger un petit peu avec le jury, justement. Je ne connaissais pas bien. Donc, Gauthier a l'air très bien.
Gauthier Capuçon, ouais.
Voilà, il est formidable. Donc, il m'a déjà envoyé des messages très rassurants. J'ai très hâte. Ce n'est pas ma spécialité, mais j'y vais, encore une fois, avec de l'humilité et l'envie de rencontrer ces jeunes. Parce que, on va dire que, pardon, mais dans cette émission, ce n'est pas l'animateur le plus important. C'est vraiment les jeunes, le jury. Moi, je ne suis que chef d'orchestre. Donc, j'ai envie de profiter, en fait. Moi, j'ai l'impression d'aller au spectacle et d'orchestrer tout ça, mais j'y vais avec beaucoup, encore une fois, d'humilité.
Allez, une dernière question internaute, Nathalie, et on passe à notre dernière rubrique.
Oui, sur le Figaro Live, on demande, avec un peu de malice, si Maxime Chattam, votre époux, venait dans votre émission « Ça commence aujourd'hui », quel serait le thème de l'émission qui lui correspondrait le mieux?
Bonne question.
Ma femme est animatrice télé.
C'est beaucoup trop facile, ça.
Entre fiction et réalité, est-ce que... Je ne sais pas. Mon mari est en permanence en train d'osciller justement entre son monde imaginaire et le quotidien et la vraie vie. Et c'est très compliqué à jongler. Donc peut-être est-ce que c'est... j'ai réussi à trouver un équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle. C'est compliqué comme ça d'être...
entre le fantastique et le réel.
Entre le fantastique et le réel. Il y a des jours où je sens que c'est compliqué, les enfants, bas âge, le quotidien. Il y a des jours où je vois qu'il part complètement dans sa montagne et dans son univers. Donc là, il y a quelque chose d'assez intéressant, en tout cas psychologiquement, que ça m'amuserait de le travailler.
Ouais. Ah, mais pour trouver cet équilibre, il faut qu'il lise votre magazine, entre nous.
Exactement.
Il y a de très bons conseils. Bon, écoutez, elle n'était pas écrite, celle-là, vous pouvez vérifier.
Je confirme.
Non, c'est vrai, il pourrait lire ça. Il y a plein de bons conseils pour trouver, entre guillemets, les clés du bonheur. Hein. C'est comme ça.
Exactement. Les clés du bonheur, c'est vraiment un magazine dont je suis très fière, qui est très qualitatif, ce magazine. J'en suis vraiment très fière, avec des interviews, mais fondamentalement extrêmement positifs. Et on donne des clés de réflexion, de développement personnel, de réflexion par rapport à des parcours de vie.
C'est un peu ça commence aujourd'hui sur papier glacé. Hein.
Pas tellement. Enfin, il y a quand même des codes communs, parce qu'en effet, on partage des expériences de vie, c'est sûr. Mais on a le pas de recul de la presse écrite, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut analyser les choses, se poser. Je trouve que c'est différent. Et puis, c'est un magazine fondamentalement extrêmement joyeux, extrêmement positif. Et je trouve qu'il y a beaucoup de lectures. C'est-à-dire que c'est un magazine qu'on peut laisser sur sa table de nuit, on l'a pas lu en un quart d'heure. On peut revenir, on peut y retourner, on peut s'en servir comme support de réflexion. J'en suis très fière de ce magazine. Il évolue beaucoup et je suis contente parce qu'il rencontre son public.
Et le troisième numéro sortira en octobre prochain.
Avec Amel Bent.
Avec Amel Bent en couverture. Top. En plus, deux femmes formidables. Parce que vous serez en couverture aussi dessus.
Bah avec elle.
Forcément.
Un peu derrière parce que c'est elle la star. Mais c'est super de la rencontrer.
Allez, on va terminer cette émission avec notre dernière rubrique en toute franchise. Alors, en toute franchise, c'est notre dernière rubrique. Il faut que vous soyez franche. En fait, il faut que vous répondiez avec plus de sincérité possible. Exactement.
Okay, très bien.
Alors, première question, quel est votre plus beau souvenir de tournage ?
C'est compliqué, hein, quand même. Alors, en fait, j'ai rencontré un de mes meilleurs amis qui m'est extrêmement cher sur le plateau de 100% Mag, qui s'appelle Jean-Philippe Doux. J'ai parlé de lui au passé, il va m'engueuler.
Et, qui était chroniqueur, d'ailleurs, sur les nouvelles technologies, un petit peu, non ?
Exactement, ouais. Qui était mon Patrice Carmouze. Et c'est vrai que ces 4 ans de 100% Mag sont un souvenir merveilleux, parce que déjà, accompagner les gens à 19h en quotidien, c'était fabuleux. Puis c'est là où j'ai été enceinte dans cette émission. J'avais mon meilleur ami à côté de moi. Donc, vraiment, j'ai un très bon souvenir. Il n'y a aucun souvenir à mettre à la poubelle, enfin si, mais je ne le dirai pas, mais ça reste un souvenir d'affect. J'avais, en fait, dans l'équipe, il y avait plein de personnes qui sont devenues vraiment des amis très chers, qui avaient un truc de très familial dont j'ai un merveilleux souvenir.
Alors forcément, le pendant de cette question, quel est le pire souvenir de votre carrière, Faustine ?
Le pire souvenir, j'en parle souvent, hein, je n'ai pas un super bon souvenir de Rising Star. Hein.
Ouais.
J'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans. Et puis la télé ne se
c'est
souvient
pas si vieux,
pas
2015,
des échecs.
2014 peut-être.
Ah oui, mais tu t'en souviens en fait.
Ah bah bien sûr, moi j'ai regardé Faustine.
C'était
moi, exactement.
Non mais après, parce que voilà, c'était un échec, ça s'est vu. Alors, en même temps, il ne faut pas en reparler, puisque les gens oublient les échecs. Donc c'est juste que l'ambiance, tout ça, voilà, j'en garde pas un super souvenir.
Est-ce que vous avez des manies ou des
mais
tocs
avant d'entrer pas là-dessus, quoi.
Non, vous inquiétez pas.
Tu mets pas son pire souvenir à Rising Star.
Ne vous inquiétez pas, je le ferai.
Je veillerai. Merci, Nathalie.
Est-ce que vous avez des manies ou des tocs avant d'entrer en plateau ?
C'est drôle parce que je suis superstitieuse. Déjà, je mange la même chose tous les jours de tournage depuis 5 ans.
Justement
une salade d'une marque qui s'appelle Yankee, avec, je vais pas vous dire, mais avec des pâtes, des cornichons, du truc paprika, avec la même sauce. Et je me suis aperçue qu'en fait, je déjeune à telle heure, et après, j'ai besoin que mon oreillette, on me la donne exactement au même endroit, juste avant de rentrer sur le plateau. Et l'autre fois, mes ingé-sons, ils l'ont donné 1 mètre avant, je leur ai dit, vous êtes dingue. C'est au moment où j'arrive à telle heure.
Et vous avez passé une mauvaise émission ou pas?
Comment ?
Vous avez passé une mauvaise émission
parce que,
ou pas ?
Non, mais j'ai voulu le refaire. C'est-à-dire que je suis repartie dans ma loge et j'ai dit, attends, on refait. Mais ce n'est pas vraiment de la superstition, mais c'est vrai qu'il y a un truc de très disciplinaire dans les tournages.
Une routine. Quoi.
Une espèce de routine. Et je m'aperçois que si on m'en sort, je ne suis pas très... L'autre fois, on m'a dit, les salades sont fermées, on va manger des sushis. J'ai dit, je ne sais pas si je vais y arriver.
Et finalement, vous l'avez fait.
Et je l'ai fait.
Bon, ça va, non.
Alors, je connais un peu la réponse à cette question, parce qu'on s'en est beaucoup parlé en interview. Avez-vous un mentor, Faustine ?
J'en ai plusieurs, en fait, des mentors. J'en ai encore l'occasion d'en parler avec Michel Drucker, qui m'a appris à accepter qui j'étais à l'antenne, mais même Patrick Sébastien. Je ne sais pas si c'est des mentors, mais ça a été...
Des moteurs, au moins.
Des personnages extrêmement emblématiques. Moi, j'ai de la chance d'avoir travaillé à côté, quand même, de légendes de la télé. Donc après, on aime ou on n'aime pas, peu importe, mais ils m'ont vraiment appris aussi mon métier, ou en tout cas à révéler, celle que j'allais être à l'antenne, justement, celle que je suis dans la vie. Donc voilà, je ne sais pas si c'est des mentors, mais après il y en a plein dans l'ombre qui m'ont tendu la main. Donc, mais en tout cas pour ces personnages-là, ces deux-là sont sincères.
Vous n'hésitez pas à les contacter parfois pour leur demander des conseils, justement.
Michel, c'est important, c'est important. Alors aujourd'hui j'ai pas de décision énorme à prendre tous les deux jours, mais je sais que quand je suis arrivée à France Télévisions, je l'avais appelé et on y avait réfléchi longuement au téléphone, on avait pesé le pour et le contre, et il avait été très paternel. Il est très paternaliste avec moi.
Justement, votre métier, si vous n'aviez pas été animatrice ou journaliste, quel autre métier auriez-vous aimé exercer ?
J'aurais adoré tenir une agence matrimoniale.
C'est vrai. Ah oui, mais alors ça c'est un peu votre métier aujourd'hui.
J'adore. Je pense
c'est dans la lignée de ce que vous faites.
Mais j'aime bien. Je sais pas, j'adore faire rencontrer les gens. Quand je vois justement Karine qui le fait, elle l'avait fait sur Instagram pendant le confinement, je trouvais ça super.
Vous pourriez le faire en parallèle de votre activité d'animatrice.
Ouais, pourquoi pas.
Mais regardez Stéphane Plaza, il vend bien de l'immobilier, il fait des émissions sur l'immobilier.
C'est vrai. Ouais, mais faudrait peut-être que je lance, c'est ça.
Je prends 10%, je vous ai donné l'idée.
C'est ça, c'est gentil. Si c'est que 10%.
Je veux un petit pourcent.
Allez, on va prendre la dernière question, Nathalie.
Quelle est votre plus grande phobie, Faustine ?
J'aime pas les oiseaux.
Ah ouais ?
J'ai hyper peur des oiseaux. Du coup, je ne sais pas si c'est ma plus grande phobie, mais je suis très claustrophobe, mais vraiment très claustrophobe. Mmh. Mais les oiseaux, je suis un peu en panique. Du coup, ne me demandez pas d'avoir un oiseau.
Le film, les oiseaux
horrible, stock, ouais. Horrible, horrible. Non, non, mais vraiment, ça me met.
Et vous êtes claustrophobe.
Ouais, et je suis très, très claustrophobe.
On m'indique dans l'oreillette que les portes viennent de se condamner apparemment de ce film. On ne peut plus sortir. Merci beaucoup, Faustine Bollard, d'avoir accepté notre invitation.
Merci pour votre gentillesse.
Je rappelle que vous présentez en compagnie de Michel Simès Voyage au Centre de la Mémoire. C'est ce soir en prime time sur France 2 et on vous retrouve évidemment chaque jour aux commandes de Ça commence aujourd'hui. C'est à 14h sur la même chaîne. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci Nathalie d'avoir fait ces news médias de qualité et puis l'intermédiaire entre les internautes et ce plateau. Et nous, on se retrouve demain, comme chaque jour, avec un nouvel invité qui anime une nouvelle émission sur France 5 le week-end. Il ne s'agit pas de Jean-Luc Lemoyne, c'est Jean-François, mais il s'agit de Thomas Hill qui arrive aux commandes de Samedi à tout prix.
Ah bah,
il a déjà eu un premier numéro. Eh bien, il viendra nous parler de son nouveau bébé après l'arrêt de la quotidienne. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau Buzz TV.
Les ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable, mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh.
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.